Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour Francine.
Bonjour Yvan.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
On est le 6 janvier, c'est les rois hein, aujourd'hui?
Oui.
Alors, je sais pas pour vous autres, dans ma famille, on a la tradition de la galette, où on envoie le plus jeune en dessous de la table pour couper les morceaux, pour pas qu'on sache qui aura la fève. On manque de plus jeunes présentement dans ma famille. Alors, un appel à tous pour quelqu'un, quelqu'un vienne couper les tranches. Mais c'est... Puis à partir de là, nous, on a... À partir de demain, on peut enlever le sapin.
Oui, exactement.
C'est ça, hein?
Alors pour moi, c'est la date limite où on conserve notre sapin, tout simplement.
Oui, c'est ça, hein?
Oui, on a perdu la tradition de...
Des rois?
Des rois, oui, de la galette.
Ah, d'accord. Et température, c'est peut-être plutôt... Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de neige. Honnêtement, là, qu'il nous envoie une bonne bordée, mais qu'il garde la température qu'on a là, puis je serais heureux.
Mais déplacez-vous un peu plus au nord. Là. Hier, ils ont eu encore de la neige.
Ouais.
Donc, c'est à espérer qu'on ça continue de neiger dans ce coin-là. Ici, eh bien, on va avoir du soleil quand même dimanche. C'est ce qu'on annonce.
Oui.
Et ça fait très longtemps qu'on a eu du soleil.
Oui, c'est vrai.
Ça va nous faire du bien.
On va avoir mal aux yeux.
Le quoi?
Peut-être, mais...
Le quoi?
essayons d'être positifs, puisque c'est 2023.
Oui, je vais préparer mes verres fumés.
Exactement. Puis sinon, vous en avez des pochards que vous pouvez même déposer par-dessus vos lunettes. Ça se vend chez Jean Coutu.
Ah bon?
Au pire. C'est pas très beau, mais bon.
La dernière fois qu'on s'est vus, Francine... ça fait 3 semaines.
Ben, c'était en 2022.
Oui, oui. D'abord, oui, c'était l'année passée.
L'année passée.
Et il s'est passé pas mal d'affaires. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu depuis la dernière fois qu'on s'est vu?
J'ai retenu des choses personnelles, je vous dirais, et d'autres plus faciles à partager qui sont plus récentes
okay,
d'ailleurs.
Allons-y pour les choses personnelles.
Ben, j'ai retenu que ça a été un Noël de partage, et ça faisait longtemps qu'on
oui,
avait
hein?
eu ça.
Mm-hmm.
D'autant plus que, comme vous l'avez mentionné, il y avait de la neige. C'était extraordinaire.
Oui.
Sport d'hiver. Moi, j'étais dans un lieu vraiment enchanteur.
Mm-hmm.
Alors, tout y était. J'ai aussi profité de cette période pour faire dans la guimauverie, comme j'appelle. Je mets ça entre guillemets.
Habiller en mou, puis faire des
bon,
choses comme ça?
Il y en a qui appellent ça le plaisir coupable. C'est des choses qu'on se dit... « Bon, je n'irai pas voir ça, je ne regarderai pas ça, parce que
oh,
c'est
dans ce genre d'affaires-là.
Un peu, oui. » Alors, j'ai vu 23 décembre.
Oui, moi aussi.
Et j'ai écouté aussi Emily in Paris. Et dans les deux cas, dans les deux cas, j'ai bien
ça.
Aimé. Oui, dans les deux cas, j'ai bien aimé. Il ne faut pas chercher trop longtemps. Évidemment, il ne faut pas avoir de grandes attentes.
Non.
Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien fait, c'est bien joué et c'est youpi.
Oui, ben, boudons pas notre plaisir. Moi, j'ai vu 23 décembre, là, il a mouillé à un moment donné. Fait que d'où j'étais, on est allé à Joliette, au cinéma Joliette, puis on a vu le film. Puis non, je ne boude pas mon plaisir, j'ai eu du plaisir. Peut-être que je vais revoir ce film-là une fois de temps en temps dans la période des fêtes.
Mais c'est encore à l'affiche, hein, si vous voulez y retourner.
Non.
Dans une cinquantaine de salles, quand même.
Oui, c'est
et,
vrai.
Et hier, on a appris
le
2 millions de dollars était dépassé, alors qu'Avatar est à la recherche de l'atteinte d'un but de 2, mais de 2 milliards de dollars.
Oh, yeah.
Disons que on est dans un autre univers.
Oui, c'est ça.
J'ai aussi pris connaissance d'un... Vous savez, j'ai une section dans la Presse Plus que j'aime beaucoup, qui présente des acteurs de changement.
Oui, oui, oui.
Et le 26 décembre, on a publié un texte. Caroline Touzin a publié un écran sur le cancre au secours des décrocheurs. C'est un très beau portrait qu'on peut retrouver sur la presse.ca de Gabrielle Bran-Lopez, qui est un cancre. En fait, il a eu beaucoup de difficultés dans ses études pendant tout son parcours scolaire, mais il a continué et il a fondé, il y a 15 ans, un organisme qui s'appelle Fusion Jeunesse, www.cerf.org, d'ailleurs, pour aller sur le site, mm-hmm. qui est consacré à la persévérance scolaire. Et ce pourquoi on en parlait, c'est qu'il y a quand même un parcours intéressant, mais aussi parce qu'il vient d'avoir une entente avec Bordeaux. C'est une entente gouvernementale majeure qui va toucher 71 000 élèves provenant de milieux défavorisés dans cette région de la France à qui il va offrir ses services pour la persévérance scolaire. Et moi, ça m'a touchée beaucoup parce que quand je suis allée en Europe il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé de Bordeaux où j'ai visité une exposition où on était très axé sur la persévérance scolaire, entre autres par le biais de l'architecture et du réaménagement des classes. Mm-hmm. Et enfin, Camille Chaille, je dirais pas notre ex-collègue, elle est toujours collègue à Canal M, oui. qui a déjà animé une émission régulière, Les Passions de Camille, qui hier était en une du devoir numérique oui. dans la section vidéo. Je vous invite à aller la voir parce que elle est très, très bonne. Et je dirais, le lead, c'est vraiment pas de pitié pour les personnes qui ont des handicaps. Mm-hmm. Et elle en est la démonstration très, très, très évidente.
Moi, je pensais que c'était une publicité pour notre chronique Au-delà des limites, même.
Bien, c'est un peu ça, hein? Ça ressemble un peu à ça. Fait que mm-hmm. faut croire que tout le monde rappe dans le bon sens et que c'est très bien. Et vous, Yvan?
De mon côté, rapidement, depuis qu'on s'est laissé, il y a eu une signature importante, hein? La signature d'une entente à la COP15 sur la biodiversité. Et j'en avais un petit peu parlé sur les objectifs, entre autres l'objectif de protéger 30% des terres, des eaux intérieures et des océans d'ici 2030. C'était l'objectif 30-30. Et ça fait partie de l'entente. Il y a aussi la création d'un fonds d'affectation à la biodiversité visant à aider les pays moins nantis. Je pense que c'est 20 milliards de dollars d'ici 2025 et 30 milliards par année, hein, et 30 milliards jusqu'en 2030. Maintenant que c'est signé, il faudra le faire.
Mais, c'est toujours ça, les COP, hein?
Oui, mais il faut commencer par le signer, alors c'est fait. Et il y a eu la Coupe du monde gagnée par l'Argentine, et on faisait le sapin chez nous au moment où c'était le match, et j'ai pas beaucoup mis de boules dans le sapin cette année. Et hier soir, ben, vous allez en parler dans les unes, c'était la fin du championnat mondial junior, c'est ce que j'ai retenu dans notre émission d'aujourd'hui maintenant.
Bien aujourd'hui, en fait, sans chroniqueur, nous allons nous improviser chroniqueurs de temps à autre.
Ben oui, Marcel ne peut pas être avec nous.
Un empêchement. Alors, pas mal de techno, parce que évidemment, c'est présentement le Consumer Electronics Show à Las Vegas, qui est la grande, grande, grande messe de la technologie, la messe annuelle. Mm-hmm. Une expérience aussi dont on va parler ensemble, qui a été menée par l'Orchestre symphonique auprès des enfants neuroatypiques. Oui. Et vous allez recevoir deux invités ce matin.
Oui, je parle avec Annie Parenteau, qui est la directrice générale de la Maison de la culture de l'avenir. C'est dans le cadre de la chronique, justement, Au-delà des limites. Et je vous mets le suspense, là. Elle nous expliquera pourquoi elle fait partie de cette chronique. Et je vais parler aussi avec notre bon ami Steve Joseph de la Fondation des aveugles du Québec sur le démarrage des activités de 2023. On fait moins de chèques maintenant, fait qu'on se trompe moins sur l'année, mais il fut un temps où il fallait faire attention. Et on repart avec une chanson en duo.
Dans le bois. cabanes dans les rues de neige, tout dans le bois, les jours de gel dans les bois. Les outardes sont arrivées, les rigoles dégringolent dans le bois. La sève coule dans les arbres, c'est le temps de cocher les érables, les bourgons viennent des péris, les veluets, les pâtris, les patates en avancée, la pile de bois complète, le cœur des signes jusqu'à sa maison, et les étoiles sont. Et les étoiles sont claires à soir.
Ah.
Quelle belle chanson.
Mm-hmm. Joli duo.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez reconnu la deuxième voix qu'on entend dans le fond du bois avec Edith Butler.
Ah, Madame Leblanc.
Exactement, Lisa Leblanc.
Lisa Leblanc.
Dans la chanson Dans le bois.
Oui, pour nous rappeler que dans le temps des fêtes, on a pu faire de la raquette un peu.
C'était bon. Et ça va revenir. Soyez optimistes. Ça va revenir.
Ça va revenir. C'est
ça
ce
va revenir.
C'est ce qu'on va garder de l'émission d'aujourd'hui.
Ce n'est que le début de 2023.
Oui, on commence. Puis d'ailleurs, d'habitude, dans le temps des fêtes, puis la semaine qui suit un peu le jour de l'an, on entend des voix différentes parce qu'il y a des remplacements, tout ça. Mais nous, c'est nos vraies voix.
On est là. C'est oui. Pas notre avatar.
Non,
on est vraiment là.
Et on va revenir.
Ben, j'espère. Alors aujourd'hui, en une, la presse parle d'un mystère qui plane, Le Devoir le titre autrement, un homme retrouvé mort près du chemin Roxham. Stéphanie Marin dit dans Le Devoir qu'on va tenter d'établir quelles ont été les dernières heures de ce monsieur-là. C'est une déclaration d'un porte-parole de la Sûreté du Québec jeudi. Ce monsieur, rappelons-nous, il a été trouvé, en fait, son corps a été trouvé non loin du point de passage du chemin Roxham, hein, ce fameux chemin que plusieurs empruntent pour entrer au Canada. Alors, on ne sait trop qu'est-ce qui s'est passé. On a trouvé ce corps jeudi près de la frontière américaine et on essaie de retracer du côté de la Sûreté du Québec les dernières heures pour savoir qu'est-ce qui a fait que cet homme est décédé. Est-ce que c'est en passant ou quoi? On ne sait trop.
Oui,
et on se questionne parce que semble-t-il que c'est très, très surveillé à ce coin-là, puisqu'on en parle beaucoup. Alors, c'est un peu étonnant qu'on l'ait retrouvé là, dans le secteur. Ça amène, disons, beaucoup de questions.
Dans ce coin-là, on devrait envoyer Armand Gamache.
Ah, peut-être. Bon. Alors,
peut-être c'est parce que j'écoute la série Three Pines.
Oui, on en parlera à Mme Penny, alors oui, peut-être qu'elle pourra nous aider. Ces pompes pour l'asthme qui menacent le climat, toujours dans Le Devoir, Alexis Riopel, qui traite souvent d'environnement, dit que des médecins demandent à Ottawa un règlement afin de remplacer les puissants GES contenus dans les inhalateurs doseurs. Bien malgré eux, oui, les asthmatiques et malades pulmonaires y contribuent plus qu'un citoyen moyen au réchauffement climatique. Il y a des substances dans leurs pompes qui sont en cause. Les inhalateurs doseurs, ils projettent des bouffées de médicaments dans la gorge des patients et quand ils les rejettent, ça contient de puissants gaz à effet de serre. Il y a des solutions de rechange, semble-t-il. C'est même implanté en Suède, d'après ce qu'on comprend. Les inhalateurs à poudre sèche ou de brume aqueuse qui n'utilisent pas de gaz propulseur néfaste pourraient être une bonne solution de rechange.
Il me semble qu'il y a des problèmes plus importants dans les GES, mais...
Exactement, mais je dirais qu'il n'y a pas de petits gestes. Hein. D'ailleurs,
non,
souvent, quand on parle des grands dossiers, en fait, les grands pollueurs, on est toujours tourné vers les industries, vers l'automobile, etc.
Oui.
Et combien de fois on nous rappelle qu'il y a plein de petits gestes que nous, chacun chez nous, si on faisait collectivement, ça aurait probablement un impact plus grand que ces grands sur lesquels on a toujours l'objectif tourné.
Considérez-vous un poste en politique, vous?
Peut-être. On ne sait jamais ce qui peut arriver, une autre carrière.
Oh, elle n'a pas dit non.
Elle n'a pas dit non. Non, j'ai appris ce matin, c'est ce matin, que bon, il y avait une dame qui a 95 ans, qui jouait à toutes sortes de jeux vidéo tout ça. Oui. Alors, mon Dieu, j'ai encore presque une trentaine d'années devant moi.
Mathieu, est-ce que le téléphone a sonné? Pas encore. Hein?
Oui, mais je vous dis pas qui a appelé.
D'accord.
Quelle partie a appelé?
Je veux pas savoir non plus. Une nouvelle qui peut-être annonce, je dirais, d'autres du même genre. À l'UQAM, 4 000 pour une correctrice exposée à du contenu raciste.
Ah oh, oui, j'ai lu
c'est
ça.
C'est dans une de la presse plus.
Oui, oui.
Philippe Teixeira-Lessard dit que l'UQAM devra indemniser une employée qui a corrigé des copies d'examen et qui se plaignait d'avoir été victime de propos racistes parce qu'en fait, elle a lu des réponses contenant du contenu discriminatoire. Et la décision a été rendue par un arbitre du travail.
J'ai un fils qui va donner des cours à l'université là, dans 10 jours. Puis là, je lisais cet article-là, puis j'ai eu comme des frissons.
C'est pas évident. Vous avez vous avez tout à fait raison parce que il faut pas être trop spontané parce qu'il y a plusieurs choses qui sont jugées racistes et que dans notre esprit ne sont pas nécessairement racistes.
Exact.
Et il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention.
Et c'est toujours un peu délicat pour une personne blanche et un homme dans mon cas de parler de ça parce que là, c'est les gens qui se sentent visés, là, qui souffre tandis que moi, je dirais, ben alors, c'est un sujet vraiment, vraiment délicat et je vais être un peu impliqué par la bande étant donné que mon fils donne un cours en sociologie bientôt.
Mais il y a des manières quand même délicates de le faire et qui peuvent nous faire sourire. Moi, je pense au bye-bye. Vraiment, c'était une très, très belle trouvaille.
Oui,
une très, très belle trouvaille.
Oui, le GPS.
Le GPS, Google Black, c'est ça. Et vraiment, je pense que il y avait une unanimité.
Oh, oui.
Et tout le monde, y compris les gens qui sont victimes de ce racisme, on savait, là, ça a touché le point. Comme quoi, parfois, il y a des façons de rallier tout ça.
Oui.
Je vais terminer en vous parlant en sport, parce que je sais que la langue.
Vous allez faire ça?
Tantôt, oui, parce que c'est en une, à la fois de la presse, mais surtout du Journal de Montréal. Alors, l'équipe canadienne qui a défait la Tchéquie 3-2 au hockey junior.
Mm-hmm.
Alors, c'est vraiment nos nouveaux héros. Mais vous, ça fait longtemps que
nos
vous les suivez.
Nos héros du jour.
Ben, nos héros du jour, voilà. Ça fait longtemps que vous les suivez. Alors, plutôt que d'avoir le commentaire de Kevin Dubé du Journal de Montréal, je me suis dit, ben, je vais avoir le commentaire d'Yvan. Allez-y donc, mon Yvan.
Ben, c'était une belle soirée, un peu tranquille. Le Canada menait 2-0
oui,
après deux périodes.
Oui, c'est ça. On a eu des inquiétudes, d'après ce que j'ai compris.
Et on était rendu, il restait moins que 10 minutes à la partie. Puis là, dans ma tête, je me disais, ah, ça va être le fun, les célébrations et tout ça. Et en 54 secondes, bing-bang, c'est rendu 2-2. Et j'ai comme avancé sur mon siège un peu. Puis on avait comme hâte que la période finisse. Parce que même, il restait moins d'une minute et les Tchèques ont vraiment failli compter. Ils auraient pu gagner la médaille d'or à ce moment-là. Et évidemment, ça s'est pas fait. Bien, évidemment, ça s'est pas fait comme ça. C'est un très beau but. On espère toujours dans ces cas-là que le but gagnant va être un beau but, pas quelque chose, pas une chance. Et Joshua Roy a fait un très beau jeu, une belle passe en avant des buts et ça a été la joie. Et mon garçon a joué au hockey longtemps, puis on est allé voir des tournois et tout ça. Peu importe la catégorie, ça finit toujours de la même façon. Les joueurs lancent leurs gants dans les airs, leurs casques, ils s'embrassent tous, ils se donnent la COVID, etc. Mais il n'y avait pas de COVID à l'époque. Mais
ben là, présentement, il y en a, puis il y a un autre variant. On nous a annoncé la venue d'un autre variant, ça finira jamais.
Alors, non, c'était une belle soirée.
Bon, mais tant mieux. Alors, merci. C'était donc le commentaire de Yvan, qui n'était pas à la une, qui n'était ni à l'intérieur de nos journaux ce matin. Donc, on a fait un petit peu... Pour commencer l'année, pourquoi pas?
Oui,
faisons changement.
Tout à fait. Et on se tourne vers notre collaboratrice du côté de l'Estrie, Monique Kirouac. Je vous ai souhaité la bonne année hier, mais oui. Francine va le faire dès maintenant.
Ah, officiellement, c'est sûr, Monique. Alors, une très, très belle année pour vous. Tout ce que
Merci
vous souhaitez,
beaucoup,
santé d'abord.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et à vous de même et à vos proches.
Merci.
Alors, vous avez parlé de neige. Il n'y en a pas en ce moment aux alentours. Mm-hmm. Mais sur le plan touristique et sur le plan sportif, il se passe quand même des choses. Imaginez que le plein air, bien sûr, vous le savez, a atteint des sommets stratosphériques, entre autres d'achalandage dans les parcs nationaux. Alors, mais ça revient, semble-t-il, à des niveaux plus normaux qui seraient comparables à l'année 2019, soit l'année pré-pandémique.
Mm-hmm.
Alors, on nous dit que les années de la pandémie ont été exceptionnelles dans les parcs nationaux. En 2020, on a brisé un record d'achalandage. En 2021, on en a brisé encore un autre. Alors, c'était en escalade. Mais là, à l'été 2022, eh bien, les parcs nationaux de la province ont accumulé 6,3 millions de jours visite, alors qu'à l'été 2021, on en dénombrait 7,8 millions visites.
Ah, quand même.
Oui, il y a une petite diminution, mais il faut se rappeler qu'à l'été 2019, on parlait de 4 236 000. Donc, on a quand même 2 millions de plus de personnes qui ont fréquenté les parcs cet été. Il faut continuer, même si c'est pas pour l'instant. En tout cas, c'est plutôt pour la randonnée pédestre.
Oui, mais je pense l'épidémie a quand même eu une retombée intéressante de nous faire découvrir nos propres parcs.
Exactement. Donc, CEPAC Québec, hein?
Oui.
Alors, le début de l'année, c'est le temps des bilans, on le sait. Eh bien, Nez Rouge, en Estrie, a franchi le cap des 2060 raccompagnements. Alors, ce sont finalement 1423 bénévoles qui ont constitué 343 équipes pour agir comme accompagnateurs lors de l'opération Nez Rouge dans la région de Sherbrooke cette année. Nez Rouge clôt donc la 38e campagne de 23 nuitées au cours desquelles se sont réalisés 2064 raccompagnements au total dans la région, dont 1715 pour la centrale de Sherbrooke, 251 pour Magog et 98 pour Coaticook. Je terminerai cette petite nouvelle en nous rappelant que depuis 38 ans, les étudiants athlètes de l'Université de Sherbrooke sont les bénéficiaires des campagnes de l'opération Nez Rouge Sherbrooke par le biais du programme des bourses du Vert et Or.
Ah oui?
Oui, tout à fait.
Le programme Nez Rouge avait été lancé à l'Université Laval pour soutenir, je pense, c'était l'équipe de natation, il me semble.
Ah, ben voyez, il y a une continuité de Laval à Sherbrooke.
Tout est dans tête.
Alors, Yvan, je vous ai déjà parlé de Sébastien Jacques et je pense que
oui.
Vous avez suivi son périple.
Oui.
Eh bien, c'est mission accomplie.
Oh,
il
bravo.
A réalisé les 47 marathons de marche en 49 jours. C'est le corps endolori, mais la tête pleine de paysages et de souvenirs italiens que ce Magogois a complété son périple pédestre ce mardi 2 janvier. Alors, il a réalisé cet exploit, on le sait, en traversant l'Italie du sud au nord, et il a ramassé des fonds pour la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. On se rappelle qu'il avait subi une opération délicate en 2015.
Oui.
Il avait une masse au cerveau et ça s'était passé en Californie. Et suite à cette délicate opération, il avait décidé de parcourir 5000 kilomètres à travers l'Amérique du Nord. Alors, il a réussi à amasser 35 720 $, comme je le disais, pour la fondation. Il est tout à fait fier de pouvoir aider à sa manière l'équipe du centre hospitalier pour enfants. Alors, d'autres projets en tête? Pas pour le moment. Il reviendra donc comme directeur d'un centre de tennis à Montréal en février, après une visite à Londres dans les prochains jours. Il sera donc de retour au pays le 11 janvier. Et je terminerai, Yvan, si vous avez une fibre entrepreneuriale, eh bien, il y a peut-être une petite entreprise que vous pourriez acquérir. Après plus de 20 ans en affaires, la propriétaire actuelle de l'entreprise aux 1000 hostas cherche à trouver une relève qui achèterait son fonds de commerce composé de quelques 8025 vivaces. Oh. Alors actuellement, Jocelyne Bastille possède plus de 2000 hostas sur le terrain qu'elle loue à Potune, qui est de près de Mansonville. En fait, c'est la région de Mansonville. Elle possède l'une des plus grandes collections d'hostas au monde. Alors, si vous avez un petit 150 000 $, elle accepterait cette offre. Elle doit arrêter, la maladie l'empêche de poursuivre. Voilà, c'était les nouvelles de l'Estrie. Ben, où merci. Il fait soleil, je vous signale. En tout cas, à Eastman, il fait un beau soleil.
On note. Et un gros merci à Monique.
Merci, au revoir.
Au revoir. Du côté des brèves, à Ottawa, les restaurateurs et les commerçants dressent un bilan encourageant de leurs activités pour le mois de décembre, même si le niveau d'achalandage ne peut être comparé à celui de 2019 encore. Les consommateurs ont en effet recommencé à fréquenter les commerces en personne. Cette embellie a toutefois été assombrie par le manque de main-d'œuvre qui est venu jouer les troubles fêtes. On arrête ici pour quelques instants et au retour, une conversation vraiment intéressante avec Mme Annie Parenteau, qui est la directrice générale de la Maison de la culture de l'Avenir. À tantôt!
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Sont constamment en période de changement depuis la première pluie sur les collines. C'est pas moi qui le dis, c'est la théorie de Darwin. Aujourd'hui j'ai compris. Ouh, je veux changer pour mieux me ressembler. Changer pour mieux me ressembler. Et c'est tout le temps la même chose. On est en métamorphose. L'évolution, c'est trop scientifique. Je me pose des questions sur ma vie en plastique. Ai-je besoin d'une meute ou d'une muse? Quand je ziote l'émeute, ça m'amuse. Aujourd'hui j'ai compris. Ouh, je veux changer pour mieux me ressembler. Ouh, je veux changer pour mieux me ressembler. Et c'est tout le temps la même chose. On est en métamorphose. C'est la loi. De trop analyser, on s'écorche, on se fait chier. C'est le moment présent, la seule science, je pense. Et c'est tout le temps la même chose. On est en métamorphose.
Émile Bilodeau et sa chanson Métamorphose.
Merci beaucoup, Mathieu. Et j'ai choisi cette chanson parce que, Francine et Mathieu, qu'est-ce que vous faites le 20 avril prochain?
Sortir de mon cocon.
Sortir de votre cocon, Francine?
J'en ai aucune idée.
Si je vous invitais, c'est fictif, là... Mais ça pourrait être réel si je vous invitais à la Maison de la culture de l'Avenir. Émile Bilodeau y sera. Et on parle à la directrice générale, Annie Parenteau, dans le cadre de notre chronique « Au-delà des limites », parce que son parcours est vraiment intéressant et ça nous amène à plein de découvertes. Et bonjour, Annie Parenteau.
Bonjour.
Comment allez-vous ce matin?
Je vais très bien.
Vous allez très bien. Alors, effectivement, Émile Bilodeau sera chez vous au mois d'avril prochain pour un spectacle.
Oui, effectivement, il sera là le 29 avril.
Le 29 avril.
Oui.
Donc, depuis combien de temps est-ce que vous êtes à la direction de la Maison de la culture de l'avenir? Et situez-nous l'avenir. Moi, j'ai étant donné que j'ai étudié un peu votre parcours, je connais maintenant où est l'avenir, mais il y a peut-être des auditeurs qui ne le sauraient pas.
Effectivement, l'avenir se trouve à 10-12 minutes de Drummondville, donc on est vraiment au centre du Québec. Là.
Mm-hmm. Donc, entre Windsor et Drummondville.
Exactement. Il y a Richmond et puis Alberton et l'avenir.
Oui, oui, oui. Et donc, comment vous êtes arrivé à la tête de cet organisme-là? Qu'est-ce qui est arrivé dans votre parcours pour arriver à cette chaise-là?
En fait, je suis quadriplégique depuis 1987, donc j'avais quand même... Bon, à l'époque, j'habitais Danville, qui est aussi un autre petit village, là, mais cette fois-là, dans les cantons de l'Est, on est quand même près. Donc, j'habitais Danville, j'avais une toute autre vie, là, dans le sens qu'on avait une garderie pour chiens, je m'occupais de ça, j'habitais là, on avait une maison... bigénérationnelle, donc j'habitais sur un côté de maison et mes parents sur... l'autre côté, mais mm-hmm. À l'époque, ma mère est originaire de l'avenir, donc on venait quand même souvent à l'avenir, et il y avait la Maison de la culture qui se trouvait là, mm-hmm. Et qui était fondée en 2009. Donc, je venais à la Maison de la culture, mais seulement en visiteur, là, comme tout le monde, mais il y a eu quelques années donc qui ont été très difficiles pour la Maison de la culture, et un ami de l'avenir m'a contacté un soir en disant « Annie, ça va vraiment très mal à la Maison de la culture. Toi, tu as du temps et je sens que tu aurais l'énergie, tu sais, pour venir nous aider. » Donc, j'ai réfléchi, très bien réfléchi, parce que ça comportait quand même que ma mère veuille bien me conduire à l'avenir quand même plusieurs fois. On était comme à 25 minutes de route, donc... à l'époque, mon père venait de mourir. Bon, on a dit, pourquoi pas?
Vous aviez eu votre accident à ce moment-là, je pense. Hein?
Oui, oui, oui. J'étais quadriplégique déjà depuis plusieurs années. Donc, on s'est dit, oui, ça va nous faire sortir. Ça va, bon. Puis, je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi présent dans ma vie. depuis 2015, je suis à la direction de la Maison de la culture. Les premières années, par contre, je l'ai fait vraiment à titre bénévole. Donc, c'était vraiment du bénévolat 100%. Là. Mm-hmm. Plusieurs heures, je dirais 40-50 heures par semaine de bénévolat pour mettre tout ça en marche. Et puis, depuis 2019, là, je suis directrice générale, mais avec un salarié. Là,
à temps plein.
Vraiment un emploi à temps plein. Je suis là. Ça va, la Maison de la culture va vraiment très bien depuis plusieurs années, en fait. Je suis arrivée là en 2015. En 2019, ça allait vraiment déjà très bien. Mm-hmm. Là, bien sûr, il y a la pandémie, mais malgré tout ça, on est content de le public est resté fidèle. On est là. Il y a plusieurs cette année, c'est une année record pour le nombre de spectacles. Donc c'est vraiment génial.
Oui, je regarde votre site présentement et il y a vraiment beaucoup d'activités qui ont été en 2022 et qui sont prévues en 2023. J'imagine que votre maman vous a suivi dans votre déplacement vers l'avenir.
Oui, étant donné que c'était vraiment très présent dans notre vie, puis que, ma mère, bien sûr, vieillit, là, ma mère a 79 ans, mais elle est comme une femme de 50 ans parce qu'elle mm-hmm. est très, très active, mais Danville, l'avenir, plusieurs fois par semaine, l'hiver, avec la mauvaise température, c'est un peu stello. Donc, on a décidé d'acheter une maison ici à l'avenir. Donc, on a déménagé ça va faire 3 ans à l'été.
Je comprends.
Donc, là, c'est plus facile. Je peux aller en roulant jusqu'à la Maison de la culture moi-même. Là, ça a vraiment beaucoup aidé. Et mes amis, maintenant, ils trouvent pratiquement tous à l'avenir, donc On a vraiment une belle vie.
Vous êtes bien entouré. Quand vous dites en oui. roulant, c'est que vous avez vous vivez dans un fauteuil motorisé.
Oui, je me déplace en fauteuil motorisé. Mes mains fonctionnent que partiellement, là, une main plus que l'autre. Mm-hmm. J'étais vraiment quadriplégique au départ. J'avais juste la tête. J'ai retrouvé un peu de mobilité, mais quand même... Ça reste quand même, j'ai beaucoup d'adaptations pour travailler.
Ben, racontez-moi justement une journée au travail de Annie Parenteau. De quoi ça a l'air?
En fait, je travaille comme ce matin d'ailleurs, tout l'avant-midi, je travaille de mon lit la plupart du temps avec tout mon bureau, là, l'ordinateur adapté, le iPad, le téléphone, les écouteurs. c'est comme
toute
ça,
la technologie, là.
Oui, toute la technologie. Ma maison est bien sûr, on a un contrôle d'environnement. Bon, les Alexa de ce monde. Et maintenant, ça nous aide beaucoup, là. Allume oui. la lumière, ferme la lumière. Bon. C'est un peu tout mon avant-midi qui roule comme ça. Et puis ensuite, là, on est en période de pause pour les fêtes, mais habituellement, le jeudi, on a un 5 à 7. Donc, le soir, on se dirige vers le 5 à 7. Et j'ai tous les samedis, à peu près tous les samedis, on a des spectacles. Donc, dans l'après-midi, je me rends à la maison de la culture, puis on est là jusqu'à minuit, 1 heure, tout dépendant de lorsque les artistes partent. Mais
oui.
c'est un peu ça. Et dans la semaine, bon, bien sûr, il y a des commissions à faire. Il y a plusieurs choses, parce que le poste de directrice générale, en fait, ça comporte, oui, je m'occupe de la matière culture, mais aussi du bâtiment, des rénovations, tout ce que ça peut comporter, là, c'est vraiment, je porte quand même plusieurs chapeaux. Là.
Madame Parenteau, il y a Francine qui a une question pour vous, Francine Forget.
Oui, bonjour. Est-ce que bonjour. Vous êtes seule à la Maison de la culture, ou si vous avez quelques personnes qui vous soutiennent?
En fait, je suis seule personne salariée. Par contre, on a bien sûr un conseil d'administration et il y a vraiment quelques bénévoles là, qui sont vraiment très, très présents et qui sont bien sûr mes amis. Donc, on a vraiment beaucoup de plaisir à faire ça, mais ça prend vraiment beaucoup d'aide là, pour pallier au manque de... Bon, bien sûr, je peux pas tasser des tables ou rentrer des chaises ou... bon. Ça prend de l'aide, puis mm-hmm. on a vraiment une très, très belle équipe là, à la Maison de la culture, donc c'est vraiment, c'est plaisant.
Vous me racontiez, quand on a parlé ensemble au téléphone, une anecdote intéressante par rapport aux artistes. Vous me disiez que au début, quand vous faisiez des contacts avec les artistes, vous aviez besoin de dire où est l'avenir et de bien leur décrire comment s'y rendre. Et c'est de moins en moins le cas. Vous êtes en train de mettre l'avenir sur la map, comme on dit communément.
Ben, en fait, oui, au départ, c'était vraiment difficile de convaincre. T'sais, on a quand même des très bons artistes qui viennent à la Maison de la culture. Là, Luc Dufault vient de venir, Patrick Normand. Bon. Mm-hmm. Mais au départ, quand j'envoyais des demandes pour avoir des spectacles comme ceux-là à la Maison de la culture, c'était vraiment difficile parce que les gens ils avaient l'impression de se rendre dans une salle paroissiale ou je sais pas. Là.
Oui, oui, oui.
Donc oui, ça a été difficile, mais maintenant, bon, tu sais, les artistes se parlent tous un avec l'autre. Donc, maintenant, oui, aller à l'avenir, là, c'est vraiment plaisant. Les gens sont recevants. Bien sûr, on essaie de maximiser, là, lorsque les artistes viennent, d'être vraiment présents à leurs demandes. Puis.
Est-ce
donc,
que
c'est beaucoup, beaucoup plus facile.
Francine et Mathieu, si on va justement voir le spectacle d'Émile Bilodeau au mois d'avril, c'est à peu près à 1h20 de Montréal. Est-ce que vous avez une infrastructure pour recevoir les gens souvent dans des... quand on va à l'extérieur, il y a des restaurants, il y a des hôtels ou des auberges, des choses comme ça. Comment ça fonctionne?
Bien, en fait, on a un petit resto là, au village là, qui est très convivial, là, où est-ce que tout le monde se rend. Puis il y a même des gens de l'extérieur qui viennent y manger parce que c'est vraiment très... C'est convivial, c'est le fun, c'est un petit village. Donc, il y a ce petit village-là. Quand la saison se prête, nous, à la Maison de la culture, quand on arrive plus vers le printemps ou l'automne, on avait des camions de rue aussi qui étaient là lors des spectacles. Mm-hmm. Donc, les gens pouvaient prendre leur repas à l'extérieur, le manger à l'intérieur avant le spectacle parce qu'on est en formule cabaret avec table et chaises et services de bar sur place. Donc, C'était facile. Et pour ce qui est des couchers, parce qu'on a des gens de l'extérieur qui viennent, puis c'est souvent une demande, bien, il y a quand même plusieurs Airbnb là, qui sont là tout autour, là, vraiment à l'avenir même. Donc, c'est vraiment facilitant, ça aussi.
Et à la blague, dans nos communications, je vous disais, bien, vous avez fait tellement de choses pour la Maison de la culture de l'avenir que le poste de maire ou mairesse de l'avenir ne vous intéresse pas?
Non, ça m'intéresse. Je suis quand même je vais à tous les conseils municipaux, puis je m'occupe aussi du petit marché qui est à l'avenir, que j'ai instauré aussi, puis que je m'occupe tout l'été. Mais j'ai toujours dit non, moi, nous, à la Maison de la culture, ce qu'on vend, c'est un peu du bonheur, dans le sens que les gens viennent pour voir des spectacles, sont heureux, sont. Mais ce qui n'est pas toujours c'est pas toujours le cas là, à la municipalité. Là. Des fois, il y a des citoyens pas contents. Puis non. Moi, j'aime beaucoup mon poste à la Maison de la culture pour ça.
Et en terminant, vendez-nous votre prochaine saison. J'ai parlé d'Émile Bilodeau, mais il y a d'autres spectacles intéressants que vous voudriez peut-être nous présenter.
Bien, tout à fait. On a pour le premier spectacle là, de 2023, on a Adriana Malin. Donc, c'est très intéressant, une très bonne auteure, compositeur, interprète. Ensuite, on a un spectacle de country américain, les Moonshiners. Ça, c'est vraiment souvent très apprécié à la Maison de la culture. On va avoir de l'humour. Il y a Réal Bélan qui s'en vient aussi.
Et Emmanuel Bilodeau, j'ai vu, hein?
Oui, Emmanuel Bilodeau qui va venir aussi en février. Donc, non, on a vraiment des bons spectacles. On a aussi le vrai groupe de boxe sera là en juin, là, qui refont une tournée. Et entre tout ça, là, et vraiment, on a un hommage à Bob Marley. C'est vraiment très varié. Là. Je pense que ça peut plaire à peu près à tout le monde.
Bien, Madame Paranto, ça a été une conversation vraiment très agréable. Je vous souhaite une très belle année 2023 et probablement que je vais aller faire un tour dans votre beau patelin à l'avenir. Alors, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous.
Ça me fait vraiment plaisir. Puis, si vous venez nous voir, là, on va être là pour vous recevoir.
Ben, j'espère bien.
Parfait.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, c'était le prologue de la pièce « Harry Potter and the Sorcerer's Stone » ou « La pierre des sorciers », il me semble, quelque chose de genre. de John Williams. Et on a choisi cette pièce-là parce qu'elle a fait partie d'un concert bien spécial, n'est-ce pas, Francine?
Oui, c'est un concert qui a eu lieu en novembre dernier. Et Mario Girard, qui a assisté, Mario Girard de la Presse Plus, oui. En a fait un papier le 31 décembre, un écran, je devrais dire, le 31 décembre dernier. C'est tout à fait à propos et je trouve que ça s'inscrivait dans l'esprit des fêtes.
Tout à fait,
donc, oui. Il a assisté à ce concert de l'Orchestre symphonique de Montréal. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur l'osm.ca dans la section « Nouvelles ». Il y a une entrevue avec Nathalie Leroux. Nathalie Leroux, c'est une musicothérapeute de l'école Saint-Étienne qui travaille avec les enfants et depuis plusieurs années, d'après ce qu'on comprend, elle assistait à des concerts pour les bouts de choux. Elle trouvait ça très, très bien, cette sensibilisation à la musique classique. Mais elle disait, qu'est-ce qui arrive avec les enfants qui ont des troubles d'attention ou des déficiences quelconques, elle trouvait que ce n'était pas nécessairement adapté à la réalité.
Oui, ça demande des conditions peut-être particulières. Hein?
Ça demande des conditions particulières, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'elle explique dans cette entrevue là sur le site d'osm.ca. Et comme elle voulait justement que les enfants neuroatypiques soient aussi choyés que les autres ses concerts, elle est entrée en contact avec Mélanie Moura, qui est chef de la programmation jeunesse et de la médiation à l'OSM. Et elle s'est attelée à la tâche afin de rendre ses concerts plus accessibles. Elle est d'abord allée voir comment ça fonctionne ailleurs, parce que Ottawa et Toronto offraient déjà ce qu'on appelle des concerts décontractés ou des performances relaxes. Ensuite, elle a consulté d'autres professionnels qui ont une expertise avec les enfants qui ont des besoins particuliers. Parce qu'il faut comprendre avec ces enfants, c'est que parfois l'attention déjà des enfants qui n'est pas toujours facile à retenir, est encore plus difficile dans ces situations-là. Par ailleurs, comment on fait pour que ça ne bouge pas? Parce qu'au départ, un concert, on se dit tout le temps, mais il ne faut pas bouger, on s'assoit et on écoute, on est bien concentré.
Et c'est là que ça devient intéressant.
C'est là que ça devient intéressant parce que ce que je viens de vous dire, ce n'est pas vrai. Dans le fond, on peut faire les choses autrement. C'est ça qu'on découvre. D'abord, il y a de la lumière qui est maintenue dans la salle.
Les lumières sont allumées.
Durant tout le concert, les portes demeurent ouvertes. Mm-hmm. Il y a aussi une espèce de salle d'apaisement qui est équipée de coussins. Alors, ils ont créé ça au centre de la salle. Il y a un grand tapis qui est disposé aussi afin de permettre aux enfants de bouger ou même de danser.
De danser,
c'est quand même pas rien, mais c'est intéressant. D'ailleurs, on a vécu tous les deux dans le temps de Noël,
oui, c'est vrai,
des expériences, vous avec l'OSM et moi avec l'Orchestre métropolitain. Et dans les deux cas, on a été très heureux de pouvoir bouger, de pouvoir participer au concert.
De pouvoir chanter, oui.
Alors ça peut peut-être amener aussi des changements ailleurs. À l'entrée de la salle, il y a des coquilles anti-bruit qui sont remises aux enfants pour pas que s'il y en a qui sont très sensibles aux sons brutaux, qu'il y ait des réactions qui fassent qu'ils ne puissent apprécier ce concert-là. Et il y a d'autres détails aussi. On a en fait identifié les différents groupes de l'orchestre par des t-shirts
ah, oui,
que portaient les musiciens. Mm-hmm. Oui, c'était orange pour les percussions, bleu pour les cuivres, vert pour les bois et violet pour les cordes.
Intéressant, j'aurais voulu avoir un gabinet orange.
Vous auriez vu? Bon, alors c'est bon parce que vous faites des percussions.
J'aurais aimé.
Vous auriez aimé, OK. Mais là, c'était quand même des professionnels qui jouaient là. Je veux pas décevoir vos ambitions, Yvan, mais c'était des professionnels.
Dans une prochaine vie, peut-être.
Dans une prochaine vie, bien, pourquoi pas. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être que ça reviendra à une prochaine saison. Et, mais si c'est animé par Charles Lafortune.
Oui.
Et
oui,
on
oui.
sait que Charles Lafortune, qui a lui-même un enfant autiste, est très engagé dans la Fondation pour les autistes mmh. et majeurs. Mmh. Il y a vraiment un engagement senti et sincère. Alors, ça ajoutait à la chose. Oui. Il y avait aussi un personnage appelé Octave qui apparaissait sur un écran et qui soumettait des questions aux enfants.
Mmh.
Alors, c'était vraiment oui, extraordinaire. Puis je sais que vous aussi, vous avez vraiment trippé sur cet article oui, et cette oui, expérience.
Oui. Je pense que j'aurais aimé y aller. Je m'y reprendrai sûrement. J'ai beaucoup ri quand on fait référence à un petit bonhomme qui se promenait un peu partout puis qui voulait savoir si c'est Raphaël qui allait diriger l'orchestre. Il disait juste Raphaël, lui. Il disait
oui,
pas M.
Oui,
Payarès.
Oui, ou oui, c'est ça. Non, non, il était bodé-bodé, là, puis oui, c'était ça. Vraiment Raphaël. Oui, ça, c'était très, très amusant. Alors, probablement que dans la préparation qu'on avait fait, parce qu'il y avait un cahier préparatoire aussi pour assister. Il y a plusieurs choses, évidemment, le temps nous manque pour parler de cette expérience, mais il y avait un cahier préparatoire et peut-être que là-dedans, je ne sais trop, on parlait justement du chef d'orchestre qu'ils allaient rencontrer et il a cherché Raphaël. Mais c'était mignon de voir ça. Puis effectivement, ça aurait été intéressant d'assister à cet événement-là. Bon, en tout cas, j'aurais bien aimé y être et on va surveiller ça, Yvan,
oui,
pour l'an
oui.
prochain.
Mais en même
c'est-à-dire
temps,
pour cette année. Là.
C'est important aussi de laisser la place à ce public-là, ce public actuel, mais futur aussi. Et qui s'acclimatent. C'est vraiment, vraiment une idée géniale.
Oui,
vraiment.
Mais il y avait des adultes qui étaient là. Il y avait des familles, il y avait des grands-parents.
Oui, parrains-marraines.
Oui, des parrains-marraines, oui, c'est ça. On allait voir, c'était presque un spectacle dans le spectacle et ça devait être très réjouissant.
Comment ça s'appelait?
De voir. Ça s'appelait, bon, OK. Là, s'il y a-tu un petit piège, je ne sais pas. Alors, on peut dire osmose ou encore OSM, ose. Et comme vous l'avez bien dit ce matin quand on en discutait, c'était assez génial ce titre-là,
tout
déjà. Alors espérons que ça continue.
D'accord. Cette semaine, il y a eu un accident. Il y a un joueur de football qui a perdu connaissance. En fait, son cœur a arrêté de battre sur le terrain et il a fallu le réanimer. Et il n'y a pas de lien, mais votre sujet qui suit a peut-être sauvé sa vie.
Il y a un lien parce que je vous parle de défibrillateur. On parle des médias sociaux tout le temps comme ayant un côté très, très négatif, mais j'avais un bel exemple ici. Moi, je suis de façon très attentive le docteur Alain Vadeboncœur.
Oui.
Depuis, en fait, le début de la pandémie, j'ai commencé avec la pandémie parce qu'il est vraiment intéressant à suivre. Il est capable de replacer les choses. Et il n'est pas aussi virulent que notre ami Guy Lepage, mais il est capable de remettre les points saisis et les barres sur les T, comme on dit. Et il le fait, je dirais, avec un peu plus d'élégance.
Oui, puis bon. il y a un bagage de connaissances
oui.
imposant.
Oui, il y a un bagage de connaissances, mais il ne s'en laisse pas imposer, c'est ça que je veux dire.
Oui.
Et ça lui permet de passer les messages qu'il faut. Il a parlé cette semaine de AED ou DEA. En fait, en français, c'est DEA. DEA Québec, DEA pour défibrillateur externe automatique. Qu'est-ce que c'est? C'est une application qu'on retrouve dans Google Play, donc pour Android, sur l'App Store. C'est gratuit. Et cette application, développée par un urgentologue, François de Champlain, dans sa fondation du même nom, il sert à quoi? Il sert à localiser les défibrillateurs les plus près de nous.
Oh oui.
Donc, si on a à intervenir dans une situation d'urgence, voilà. Alors, DEA, tout simplement, et vous allez arriver à cette application. Et je vais vous dire, je l'ai essayé, c'est très, 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 très bien fait.
Ah oui.
Très bien fait. Et ça voit qu'il y en a beaucoup. Il faut juste savoir où ils sont. Et voilà, un bien fait de nos médias sociaux.
J'ai suivi un cours de secourisme il n'y a pas tellement longtemps et puis il y avait une partie là-dessus. Une fois qu'on a la machine nous dit exactement tout quoi faire. Et puis, par la suite, on prie pour que la personne s'en sorte. En général, elle s'en sort heureusement. On fait encore un petit arrêt et on continue avec des sujets qui touchent la technologie à notre retour.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet. Best is yet to come.
The best is yet to come, babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway.
Wait till our lips have met.
Wait till you see that sunshine day.
You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't that be fine?
The best is yet to come. The best is yet to come. Come the day you're mine.
Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry.
Wait till your charms are ripe for these arms to surround. Should old buddy a do-do-do.
You think you've flown before, but you ain't left the ground.
Till you're locked in my embrace.
Wait till I draw you near.
Wait till you see that sunshine face.
Ain't nothing like it here.
The best is yet to come, Tony. Won't it be fine?
Anna, the best is yet to come. Come the day you're mine. Go. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but you ain't left the ground.
Wait till you're locked in my embrace.
Wait till I draw you near.
Wait till you see that sunshine place.
Nothing like it here.
The best is yet to come, babe, won't it be fine?
The best is yet to come.
Come the day you're mine.
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 Tony Bennett et Diana Krall qui chantaient « The best is yet to come ».
Et Diana Krall. Tony Bennett et Diana Krall.
Oui.
Oh mon Dieu.
Il a fait un album de duo, Tony Bennett. Avec plein d'artistes.
Avec Lady Gaga, entre autres.
Entre autres.
Oh. Diana Krall, une petite anecdote rapide. Je suis allé voir un de ses concerts. Avec Marie et moi, on est allé voir un de ses concerts à l'aréna de Halifax, où il y a eu la finale hier. On était à Halifax parce qu'on visitait les Maritimes, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Puis il y avait un spectacle de Diana Krall à l'aréna. On a eu des billets, me semble, relativement faciles. Ben, peut-être, je vois. Mais très beau spectacle. C'est pour ça que j'ai réagi sur Diana Krall. Excusez-moi. Et je reviens vers Francine après cette digression. Et vous allez nous parler d'un appli ou d'appli pour des commandes d'épicerie moins chères. Ça existe, ça, de l'épicerie moins chère?
Bien, c'est-à-dire que c'est pour économiser à l'épicerie.
D'accord.
Bien, vous savez que ce que les anciens faisaient, là, mais il y en a encore qui le font, hein, c'est qu'on prend ce qu'on reçoit, les dépliants qu'on reçoit, mais que peut-être on ne recevra plus. Et puis, on bâtit, je dirais, notre autoroute de la
semaine. Oui, et puis on dépense plein d'essence pour sauver de l'argent dans l'épicerie.
C'est ça. donc, c'était très à propos, je trouve, Stéphanie Bérubé dans la Presse Plus qui a fait un écran là-dessus sur des applis pour économiser l'épicerie. Le budget réservé à l'alimentation, on a vu l'an dernier comment ça augmenter et on prévoit encore que ça va encore augmenter. Donc, le but, c'est de gérer notre frigo, d'éliminer le gaspillage. Mm-hmm. Elle en a testé 5 parmi les plus populaires. Food Hero. Food, F-O-O-D, ouais. Hero, H-E-R-O. C'est une création québécoise, mais c'est sûr, d'après le nom, on le sait tout de suite.
Ben, j'aurais dit française, mais en fait.
IGA et Métro, on est capable.
On est capable, OK.
On est capable. Ils ont adhéré, puis il y a maintenant 350 commerces qui sont là-dessus.
Là,
donc,
j'ai manqué, c'est quelle chaîne?
IGA et Métro. Okay, IGA et Métro. Mm-hmm. Et en fait, c'est qu'on va indiquer là-dessus des produits sur lesquels il y a des rabais importants de 25 à 50 %. Et à ce moment-là, on peut les acheter et on va les récupérer à l'épicerie en tant que telle.
Donc, on fait ça à partir de la maison?
De la maison, oui. Ça, c'est des applications dont je vous parle.
Oui.
Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette application, c'est que si on est un peu granola comme moi, Rachel Berry, qui appartient maintenant à Sobeys, donc IGA, fait partie aussi de cette application-là. Alors, c'est très intéressant. L'évaluation qu'elle en fait, Mme Bérubé, c'est que oui, il faut l'utiliser régulièrement, surtout avec les nouvelles hausses de prix des aliments qui sont prévues pour 2023. Une autre qui s'appelle Too Good To Go.
OK, ça aussi, c'est québécois, je suppose?
C'est né au Danemark.
Ah, d'accord.
Ouais. C'est une ancêtre,
pourquoi
en fait.
Pourquoi j'ai pas pensé à ça?
C'est une ancêtre dans le monde des applications anti-gaspillage. C'est plus anti-gaspillage. C'est-à-dire que les types de commerces qui sont là, s'ils ont des restes de la veille, boulangerie, fruiterie, café, autres restaurants, et les invendus sont sur ce site. Et là, vous allez les retrouver et vous allez les acheter et vous allez les récupérer dans les commerces là, qui vont participer. Il y en aurait 1000 qui participeraient dans le Grand Montréal. Pour l'ensemble du Québec, c'est 1250. Donc, on voit que c'est un phénomène plutôt montréalais. Mm-hmm. L'expérience, à la fois très bonne et très mauvaise. Très mauvaise parce que ben, il y a des jours où on arrive, on ne sait pas trop là, hein, dans quel état ça va être. Donc, on récupère ça, puis on arrive chez soi, puis on dit, ouais, ben là, c'est pas fameux, hein, c'est pas mal sec, c'est pas très bon, etc. Ou très bonne, parce que c'est l'inverse qui se produit. C'est que les produits qui sont mis sur la vente anti-gaspillage, mais à ce moment-là, c'est des produits qui sont intéressants.
Est-ce que ces produits-là, on parle, j'imagine, on parle de boulangerie, pâtisserie, mais est-ce qu'on parle de viande et de poisson aussi?
Non, non. Non, non, c'était surtout fruits, légumes et des produits qui demandent une transformation immédiate. Donc, ça ne peut pas être des viandes ou des poissons.
Je comprends.
Elle dit que oui, c'est pas si mal. Il faut faire un tri pour exclure les épiceries qui passent parfois des trucs que douteux. Un autre qui s'appelle Checkout 51. Alors, ça, vous voyez, c'est toutes des petites affaires très, très
On devrait leur proposer des noms.
Oui, oui, ça serait mieux. En effet, vous avez bien raison. Et puis, celui-là, c'est cette fois, je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être très, très bon parce qu'en plus, il faut réclamer le remboursement en envoyant une photo du reçu. C'est pas très intéressant.
C'est plus compliqué.
Alors, sa conclusion, c'est que vraiment pas, on ne retient pas ça. Mm-hmm. Il y a Rebee, qui est une application qui regroupe les circulaires des commerces de tout genre.
Rebee, vous écrivez ça comment?
R-E-E-B-E-E. Okay. C'est encore très francophone. Donc, on fait la tournée. Là, il y a des extras, on fait la tournée. Et puis, ça peut être intéressant. Mais elle dit, oui, on l'installe à nos parents parce qu'ils sont habitués de fonctionner avec les...
Oui, c'est vrai.
Et pour terminer, là, très, très rapidement, parce qu'en fait, j'abuse, le CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Alors, on en parle beaucoup, beaucoup dans les journaux présentement, dans les médias. Moi, je vous invite à suivre Bruno Guglielminetti.
Je pensais que vous nous invitiez.
Non. Sur Twitter ou encore sur son infolettre, tout simplement en googlant son nom, parce que toutes ces affaires-là, comme à chaque année, il y a plein de rêves, mais on ne sait trop ce qui sera vraiment mis en marche à un moment donné. Mais ça fait rêver!
Et vous allez nous en parler quand il va y avoir des choses plus concrètes, c'est ça?
Peut-être la semaine prochaine, on regardera ça, parce que présentement, c'est des annonces, et des annonces.
Mais le show, l'exposition a lieu quand?
Elle est présentement
en cours. Présentement,
oui, c'est présentement en cours. Dans la presse plus, on la couvre beaucoup, on en parle beaucoup. Et aussi dans d'autres médias et sur les médias sociaux, ça c'est sûr, parce que plusieurs intervenants sont là-bas. Il y a 100 000 participants. Hein. Quand je vous dis que c'est la grande messe, je ne sais pas si on peut dire ça aujourd'hui.
Puis on n'est pas là, nous deux?
Ben je sais pas. Moi, je devrais y être, là, mais Canal M, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. Ouais, en tout cas, probablement, j'ai oublié de prendre mes courriels pendant le temps des fêtes.
Ouais, ou votre inscription s'est pas rendue?
Je ne sais pas. Ouais. T'aurais dû m'arrêter.
Oh, on avait presque perdu le micro de Francine et il est revenu.
Ah, il est revenu en force, Francine est en feu.
N'est-ce pas? Mais on va se tourner vers Steve Joseph, qui est évidemment le directeur des services de loisirs à la Fondation des aveugles du Québec, qui nous fait vraiment une fleur, Francine, parce qu'il est en vacances.
Oh, il vient passer ses vacances avec nous. Ben merci, Monsieur Joseph. Et bonne année à vous.
Ben, c'est des vacances. Vous êtes des vacances, alors c'est pour ça que je passe mon temps avec vous. Vous êtes tellement rafraîchissant.
Vous savez que vous avez un rire un peu Père Noëlesque?
Si on veut.
C'est ça.
Il faudrait que je rajoute du haut dedans un peu. Mais en effet, je suis très ricaneux. Je suis une personne qui est très ricaneuse et toujours de bonne humeur.
Oui, c'est ça.
Donc, on espère que ça va continuer en 2023. Puis bonne année à vous en passant.
Merci à vous aussi. Et quand vous êtes triste, ça doit être vraiment triste autour de vous?
J'essaie tout simplement, je pense que le secret, c'est que si je suis triste à la maison, je vais pas l'emmener, mettons, au travail ou bien dans mes autres activités que je fais. Si je suis triste dans mes autres activités, je vais pas l'emmener à la maison. Alors, les personnes avec qui j'ai la tristesse, je profite de la tristesse avec eux autres. Par la suite, c'est oublié, je passe à autre chose.
Alors, gaiement, tournons-nous vers des choses qui vous sont sérieuses, c'est-à-dire le démarrage des activités de la Fondation pour 2023.
Oui. Donc, je vous parle d'activités jeunesse pour l'instant. On a des activités qui vont débuter en fin de semaine prochaine. Donc, je vous dirai pas cette fin de semaine-ci, mais la fin de semaine prochaine, c'est la formation des moniteurs en ski. Alors, Alexandre, qui est de retour d'ailleurs de son périple autour du Canada et des États-Unis, qui nous revient marié aussi avec une belle bague au doigt.
Oui, et vous avez assisté à ce mariage-là. Je ne connais pas vos histoires personnelles.
Au mois d'août dernier, je suis allé en France. Il s'est marié en France et puis là, ils ont fait leur périple ici. Donc, Alexandre qui est de retour, qui va tout nous coordonner ça, ce calendrier-là. Donc, on a un calendrier de ski qui débute. Dans le fond, la formation débute la fin de semaine prochaine, la fin de semaine du 13, 14, 15. Et puis, nos activités en ski débutent le 21 janvier avec du ski au Mont-Saint-Sauveur et qui va se décaler comme ça jusqu'au 24, 25, 26 mars pour aller au Mont-Tremblant. Donc, à toutes les semaines, oui.
Les gens qui suivent ces cours, c'est des jeunes, c'est des adultes? Comment ça fonctionne?
C'est ça. Donc, dans le fond, notre formation, évidemment, c'est les moniteurs. Puis par la suite, on a des semaines comme le 21 janvier, je vous donne un exemple, c'est du 13-25 ans. Par la suite, 28 janvier, ça c'est tous. Après ça, on va avoir des dates, c'est du 6-12 ans. Donc, c'est tout à partir de 6 ans, mais ils ont leur date. Des fois, les 6-12 ans, c'est un petit peu plus... disons, c'est pas les 6-12 ans qui sont moins téméraires, mais c'est les parents qui sont moins enclins à nous les envoyer. Des fois, ce qu'on fait, nous, on dit aux parents, ben, venez avec nous, venez voir qu'est-ce qu'ils font, venez sur les pentes, puis par la suite, habituellement, c'est à 100%, ils nous les laissent après, mais c'est pour ça qu'après ça, on peut renflouer avec, quand on a moins de 6-12 ans dans ces activités-là, donc on renfloue avec des 13-25 ans pour mettre en branle notre activité pour qu'elle soit pleine. On a quand même 14 moniteurs qui vont faire partie de notre périple cette année. Mm-hmm. Alors, pour 14 moniteurs, et c'est du 1 pour 1. Puis, on prend aussi la fratrie. Donc, quand on dit qu'on prend la fratrie, il peut y avoir des frères et sœurs qui les accompagnent. Eux autres qui ont moins besoin d'un accompagnement 1 pour 1. Donc, ils suivent leurs frères ou leurs sœurs qui ont une déficience visuelle, qui va descendre avec le moniteur. Puis, eux autres, ils savent souvent déjà ce qui est. Alors, ils les suivent. Puis, nous autres, on dit aux parents, ben allez magasiner puis reviens les chercher à 17h ce soir.
Puis, quand ils descendent avec les moniteurs, est-ce qu'ils sont attachés aux moniteurs ou bien ils sont à une certaine distance? Comment ça fonctionne?
Ben nous autres, dans le fond, il y a la formation, justement, puis non, on ne les attache pas du tout. On commence par du main à main. Et je vous dirais que c'est le moniteur, il skie de dos. Et puis, il met les mains, puis il explique, il place les mains de manière à expliquer comment ses skis doivent être placés. Alors, il va placer ses mains, exemple, en triangle, mettons, comme les skis devraient être en chasse-neige en triangle. Alors, ce qu'il va faire, tout simplement, ce qu'il va lui dire, il va lui donner un genre de code. Il va dire, quand je baisse cette main-là, ben ce pied-là, il doit faire, mettons, une réaction pour pouvoir virer de tel côté. Mm-hmm. Puis, il faut faire attention, parce que il y a du monde qui dit, ben on dit droite-gauche, droite-gauche. Mais vu que nos moniteurs skient de derrière, ils peuvent se mélanger le droite-gauche. Leur droite-gauche n'est pas le même droite-gauche que celui qui descend. Alors, nous autres, on va y aller avec des hop pour les virages. Donc, à chaque fois qu'il va dire hop, 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 la personne, elle va virer au hop. Le hop, il vire l'autre côté. Mais on commence avec du main à main quand c'est un débutant. Mais on finit, mettons, que le moniteur, bien souvent, il est derrière le jeune. Le jeune, lui, il skie en avant. Puis là, ils vont. Là, c'est une autre... c'est l'autonomie avant tout. Donc, on leur apprend. On commence par leur apprendre, mettons, du main à main pour les sécuriser au début. Et par la suite, ben c'est fait. On y va, on lâche les mains, puis on y va avec des hop, puis le jeune ou le participant, il skie tout seul.
Puis c'est là que les parents commencent à avoir peur.
C'est là que les parents commencent à avoir peur.
on achève déjà notre conversation. Est-ce qu'on parle d'une autre activité?
Oui, on a nos activités récréatives aussi qui vont commencer, eux autres, le 22 janvier.
Oui. Oups, j'ai plus rien.
Il est effectivement parti. Je vais vérifier s'il est toujours là.
D'accord. Alors, on a perdu Steve. On va essayer de le rattraper. Et entre-temps, Mathieu, peux-tu nous mettre une petite musique? Fait des démarches encore pour rejoindre Steve Joseph, mais entre-temps, on va commencer à vous parler de ce qu'on surveille, Francine et moi, pour les prochains jours. Francine, avez-vous déjà quelque chose en vue?
Ah, comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses. Alors, dans un premier temps, on parlait de réconfort en entrée de jeu de cette émission. Aujourd'hui, dans Le Devoir, en page B3, je vous invite à aller voir ça. 10 bols de soupe réconfortants. Alors, on parle de 10 endroits au Québec, Montréal, Québec, Île-de-la-Madeleine, où on peut aller prendre une très bonne soupe. Ah, alors, oui. Ne vous gênez pas, on fait une très belle description, on vous donne même l'adresse. Parce que souvent, dans les chroniques culinaires, je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle d'un resto quelque chose, mais on ne donne pas l'adresse. On dit c'est à Montréal, on dit c'est à Québec, c'est... Alors là, on a l'adresse aussi. Donc, c'est des incontournables. C'est à la page B3 du devoir d'aujourd'hui.
Oui, je suis plus intéressé à savoir où géographiquement que B3 dans le devoir.
Mais... Oh, mais je peux vous le dire, mais c'est parce que c'est très long.
Non, non, mais juste pour me donner l'eau à la bouche.
Ben, l'eau à la bouche. Par exemple, OK, par exemple, à Montréal, il y en a plusieurs, mais il y a au pied de cochon. On parle toujours de la poutine et tout ça, mais et du pudding chômeur. Mais la soupe à l'oignon gratiné aux gruyères des grottes, c'est sur Duluth Est, 536. Et de la Madeleine, ben c'est le Fishac de Dauphin's Fishac.
C'est encore c'est ouvert.
À Grosse-Île.
Oui, à Grosse-Île, bien sûr.
C'est la coopérative des pêcheurs. Et puis, il y a évidemment des soupes produits de la mer. À Québec, délicatesse tonkinoise, c'est un secret bien gardé qu'on partage. Alors évidemment, on parle d'un pad thai. 732 rue Saint-Jean, il y a chez Temporel aussi à Québec qu'on connaît, mais voilà.
Ça suffit, ça suffit.
Là, parce que... vous allez avoir l'embarras du choix.
Oui, 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 puis l'embarras, c'est...
Mais B3 du devoir, vous allez avoir tout dans le détail.
Oh, oui, c'est bon. prochaine
activité. L'autre chose, je suis vraiment dans ces décomptes, 40 films à surveiller en 2023. C'est dans la presse plus. J'ai jeté un coup d'œil ce matin. Si vous aimez le cinéma, vous allez être ravis parce qu'en plus, il y a plein de bandes-annonces. Des fois, il y a des listes, mais il n'y a pas de bandes-annonces.
Oui,
mais là, il y en a beaucoup.
Pas pour tous, me semble.
Non, c'est sûr. Mais des fois, il y en a un sur 10. Là, vous êtes exigeant. Moi, j'ai regardé ce matin et j'ai dit, ça vaut la peine d'en parler parce qu'il y a pas mal de bandes-annonces. Alors, oui, s'il vous plaît, ne gâtez pas mon plaisir.
Puis même pour des films qui vont sortir au mois de mars puis avril, me semble.
Et il y a beaucoup de films québécois.
Oui.
Bon, alors si vous êtes déjà...
Il y a Denis Arcand qui va sortir.
Oui, c'est ça. Il y a aussi un film que j'attends, j'oublie le réalisateur, mais c'est À partir du plongeur de Stéphane Larue avec Henri Picard sur la restauration.
Le fils de...
C'est-à-dire qu'on l'a présenté, en fait, on a présenté Luc Picard comme étant le père de Henri Picard maintenant, hein, parce que... on a même fait la farce, je me rappelle, Jean-Philippe Gauthier lui a dit « Est-ce que maintenant ta job, c'est de manager la carrière de ton fils? » Parce qu'il est très occupé. Si vous n'avez pas vu 23 décembre, allez-y, c'est réconfortant. Oui. Je suis toujours dans le réconfort. Et si vous l'avez vu, là, je suis vraiment pas dans le même domaine, mais Avatar 2. Allez voir.
Ah, vous l'avez vu, vous?
Je l'ai vu, très certainement. Et écoutez, ça aussi, c'est une belle petite histoire, mais sur le plan technique, c'est époustouflant. Vraiment? Quand on dit « ça vaut la peine d'aller en salle », ça vaut la peine d'aller en salle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je vais terminer, avant de vous laisser la parole, le crachoir, avec l'écomusée, voyons, du Fier Monde, qui a prolongé une exposition dont je voulais vous parler avant de partir, puis ça n'a pas donné, comme on dit, il y avait trop de choses, mais elle a été prolongée jusqu'au 8 janvier. C'est les 90 ans d'histoire du Chaînon, fondé par Mme Yvonne de Maisonneuve. Alors, 90 ans d'histoire, et c'est au musée du Fier-Monde, à l'Économusée. Il s'est situé sur la rue Atateken, 2050 Atateken.
Mais c'est tout près d'ici, ça.
C'est tout près d'ici, effectivement. Il y a des prix famille, hein, je veux dire, c'est quand même assez abordable. Et il y a d'autres expositions si jamais vous y allez.
Excellent.
Et vous, Yvan?
De mon côté, j'ai regardé la température pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de neige de prévu, mais à partir de... Puis là, j'y vais de mémoire parce que là, ma tablette me joue des tours. Je pense que c'est à partir de mercredi, peut-être mardi, mais on a des températures plus froides que moins 10. Alors, le petit garçon en moi a commencé à trépigner parce qu'on va peut-être pouvoir aller patiner.
Mais vous pouvez aller patiner.
Oui, il y a des glaces.
Ben oui, sur Henri Tranquille, sur la place Henri Tranquille, c'est ouvert. Il y avait plein de monde hier et dans le Vieux-Port aussi.
Oui, puis c'est des glaces réfrigérées, oui. Je pense, qui sont traitées avec une zamboni puis tout ça. Mais il y a plein d'autres endroits, à Montréal en particulier, puis ailleurs aussi, où on ne peut pas patiner présentement parce que ça ne gèle pas. Alors, peut-être que l'hiver va reprendre quelque part la semaine prochaine. Fait que ça, c'est quelque chose à vérifier.
J'ai une question pour vous. Vous n'êtes pas allé voir les petits poissons dans la glace de la place Henri Tranquille dont vous nous aviez parlé?
Oui, pas encore.
Pas encore, OK.
Parce que j'étais... Je viendrai parce que Mathieu a eu un soubresaut. Non, mais j'étais ailleurs, dans la campagne, dans Lanaudière. Alors non, je ne suis pas allé encore. Mais en principe, l'hiver n'est pas fini. Maintenant, je ne sais pas. La semaine prochaine, c'est le retour des voix et des visages qu'on connaît d'habitude. Donc, la semaine prochaine, là, on a parlé de la fête des rois, puis c'est le temps de sortir le sapin dehors. Mais à partir de lundi, on a le retour de toutes les voix qu'on connaît, dont Hélène Denis, qui va être de retour ici même, pour l'émission au quotidien, à la télévision. Toutes les téléromans vont sortir.
Oh, on repart lundi.
Oui.
Oh, alors, cinquième rang. On ne sait pas ce qui est arrivé avec le policier superstar.
Mon Dieu.
On va suivre ça.
Moi, je suis stat. C'est le retour de stat. Alors, puis il y a eu, justement, dans le bye-bye, il y a eu quelque chose de vraiment bon, je trouvais, par rapport à cette émission-là. Et l'autre chose, j'en parle aujourd'hui, parce que peut-être que si les gens sont intéressés, ils vont vouloir avoir à s'acheter des billets. C'est dimanche, mais pas qui s'en vient, mais c'est l'autre après. Ça s'appelle Clair de lune. C'est art choral. C'est à la Maison symphonique. C'est l'ensemble art choral qui convoque les mélomanes à une célébration du chant choral. Les 20 chanteurs professionnels, dirigés par Mathias Mott, proposent un bouquet des plus belles pages du répertoire, telles que le célèbre Ave Verum Corpus de Mozart. Le titre de cette fête de musique chorale fait allusion à la visionnaire sonate Clair de lune de Beethoven, qui a été arrangée pour chœur et piano au 19e siècle. Il va y avoir aussi 100 chanteurs, 5 chorales. Donc, ça se passe dimanche, la semaine prochaine. Donc, ça vaut peut-être la peine de se... Mon Dieu, le temps passe. C'est le temps de dire bonjour.
Il ne vous reste plus qu'à vous saluer, chers auditeurs, à remercier Mathieu Tessier. Merci, Yvan.
Merci, Francine.
Et c'était notre première de l'année.
Et oui, et puis on va faire toute l'année ensemble. Tiens.
On espère.
C'est notre résolution. Alors, à la semaine prochaine.